Vous êtes sur RTL.
Midi et demi.
RTL.
Bonjour. Nous sommes chez Dave, le plus français des Hollandais.
Le journal inattendu.
Repartir plus libre que l'air. La nostalgie aura toujours le visage de toutes les filles et les garçons de mon âge. Quand la candeur promettait.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Excusez-nous de venir chez vous à l'improviste.
Alors Dave, les Français veulent savoir.
Nina, c'était qui?
12h30, 13h30.
Oh, 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 ne démarrez pas là, je suis dans la douche là.
Le journal inattendu de Dave avec Vincent Parisot sur RTL.
Et Swan, c'était qui?
Ma copine.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci beaucoup de passer cette heure avec nous dans le fauteuil du rédacteur en chef du journal inattendu. Au lendemain de la sortie de votre 13e album, Souviens-toi d'aimer, un disque produit par Renaud. Renaud qui signe d'ailleurs un texte. Les autres étant évidemment de votre compagnon et parolier attitré, Patrick Loiseau. Alors on va parcourir ce texte, mais aussi votre carrière, et il y a de quoi dire. On va se faire plaisir évidemment avec vos nombreux tubes. On connaît votre passion pour les chiens, on va en parler, mais on va surtout découvrir votre engagement auprès de la fondation créée par votre invité Frédéric Gaillane, la première école d'éducation de chiens guides en Europe destinée aux enfants aveugles et malvoyants. Il sera avec nous après 13h. Et puis on verra tout à l'heure, grâce au reportage que vous nous avez demandé sur la disparition des abeilles, qu'aujourd'hui le débat chez les apiculteurs, c'est avec ou sans sucre ajouté les abeilles. Je vous promets également une très belle surprise vers 13h10. Mais avant cela et avant les infos, vous allez pouvoir commenter si vous le souhaitez. Vous le savez, c'est la tradition ici d'Ève. Il faut vous tirer le portrait. Alors c'est à vous.
Alors, je m'appelle Walter Levenbach. Mais évidemment, c'est pas sous ce nom-là que vous me connaissez. Si vous êtes né au siècle dernier, comme moi, dans les années 60, vous n'avez pas pu éviter certaines chansons comme en effet du côté de ses soins, Vanina, Par hasard, Mon corps malade, etc. Sinon, j'ai pas commencé quand même ma vie d'artiste avec ça, parce qu'avant, et j'aime bien en parler, j'ai fait Godspell, qui était 3 ans de comédie musicale avec entre autres Daniel Auteuil et Armand Daltaï, et qui sont un peu mes universités.
Et Daniel Auteuil est d'ailleurs depuis resté votre ami. Très proche.
Oui, c'est un frère. Ouais. Et puis, après, j'ai fait Ubu Roi avec George Wilson. Donc, ça, c'est des expériences qui m'ont beaucoup aidé après. Un jour, Drucker m'a dit, mais les gens pensent que tu as 10 ans de moins parce qu'ils pensaient que quand tu as eu du succès en 74, que tu avais 20 ans. Eh ben non, j'en avais 30. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus âgé que vous pouvez penser. Et je me pose même des questions. J'ai lu l'explication d'un vieux beau. Un vieux beau, c'est un homme d'un certain âge qui veut encore séduire. Eh bien, c'est mon métier. Un peu. J'aimerais mieux être un beau vieux qu'un vieux beau, mais on peut faire les deux peut-être. Sinon, évidemment, il y a tous ces succès-là. Puis après, il y a eu pour les jeunes, ceux qui sont nés bien plus tard, ils m'ont découvert peut-être dans la France un incroyable talent. C'était trop cool, les jeunes. J'ai adoré faire ça, ne serait-ce que parce qu'on n'a rien à faire, on arrive.
C'est bien la télé pour ça.
C'est formidable. Rien à préparer, contrairement à cette émission où j'ai bossé comme un fou, évidemment.
Oui, on demande ça. Oui.
Donc, et puis il y a l'expérience aussi un petit peu de cinéma, et je me suis rendu compte que c'est un très très piètre acteur, c'est vraiment pas le même métier. Donc c'est vrai que après bon, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je dois beaucoup de choses à RTL, et je dis pas ça parce que je suis là, mais parce que je fais un petit coucou à Monique Lemarcy. Pour les auditeurs, ils savent peut-être pas, mais c'était la directrice des programmes à cette époque-là, et elle m'a beaucoup aidé pour ses chansons des années 70, quoi.
Et on embrasse évidemment Monique Lemarcy.
Très fort.
Et l'info, ça vous intéresse l'info?
Je suis la politique avec beaucoup de curiosité depuis l'âge de 14 ans, et j'avais un père qui m'a dit, à l'époque, il y avait encore le rideau de fer, il m'a dit, écoute Voice of America, mais écoute aussi Radio Moscou, et après tu te fais ton opinion.
Aux Pays-Bas, vous écoutiez Voice of America et Radio Moscou.
Absolument, c'est passionnant.
Bon, alors je vous propose d'écouter RTL, les infos,
c'est pas
tout
mal
de
non
suite.
Plus.
Et l'actualité de ce samedi 14 septembre, c'est tout d'abord la première nuit en prison de Patrick Balkany, après sa condamnation à 4 ans ferme pour fraude fiscale. Il a d'ailleurs reçu dès ce matin la visite de ses avocats. Et le soutien de l'ancien président Sarkozy, dont il est l'ami, vous l'entendrez, comme vous entendrez également dans un instant, à la mairie de Levallois, son épouse Isabelle, qui assure l'intérim, elle vient de prendre la parole sur le perron. L'actualité également dominée par une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes à Nantes. Gros dispositif policier, les autorités redoutent la présence de Black Bloc, d'autant qu'une manifestation contre les violences policières et à la mémoire de Steve Canisso doit se joindre au rassemblement. On sera sur place à l'heure du pique-nique des Gilets jaunes. L'Italie assouplit sa position vis-à-vis des migrants. L'Ocean Viking, avec à bord 82 personnes secourues en mer, a pu accoster ce matin à Lampedusa. Et puis le football, le retour de la Ligue 1. Lille rassure, Lyon piétine et cet après-midi, Neymar sera au Parc des Princes pour PSG Strasbourg. Les supporters qui n'ont pas vraiment apprécié l'intersaison devraient lui faire savoir. Patricia Charbonnier, c'est un week-end sous le soleil qui débute.
Ah, c'est un temps de plein été cet après-midi. Conditions météo anticycloniques pour tout le week-end et même pour toute la semaine prochaine. Pas de pluie à l'horizon. Un temps sec cet après-midi, plein soleil sur une large moitié nord et dans l'est. C'est un petit peu plus nuageux. On a un voile nuageux assez dense entre le massif central et les Pyrénées et surtout sur le centre-ouest avec un petit risque d'averse pour cet après-midi. Et puis la chaleur qui gagne du terrain vers le nord cet après-midi, chaleur qui remonte d'Espagne. Déjà hier après-midi, on avait des pointes à 35 degrés dans le sud. Ce sera encore le cas cet après-midi. On est à peu près 8 à 10 degrés au-dessus des normales, avec 32 cet après-midi à Bordeaux, à Limoges et La Rochelle, 30 degrés à Aurillac et à Bourges, 28 à Orléans, 27 à Paris, 25 à Brest, 24 à Lille et 21 degrés, ce sera la température la plus basse pour Cherbourg.
Et donc une météo radieuse en perspective à 13h, puisque à 13h c'est vous, Dave, qui nous présenterez.
Ça m'enchante.
Alors, vous nous avez dit que vous intéressiez à la politique, là on est à la limite entre la politique et les affaires,
même. Les faits divers, même.
Et voilà, c'est ça, même plutôt côté faits divers. Patrick Balkany, le maire de Levallois, condamné à 4 ans de prison ferme hier pour faute fiscale, a passé sa première nuit sous les verrous à la maison d'arrêt de la santé. Son épouse, condamnée elle à 3 ans ferme mais sans mandat de dépôt, a pu rentrer dans sa commune. Elle assure l'intérim à la mairie en tant que première adjointe et elle vient de s'exprimer sur le perron de la mairie. On écoute Isabelle Balkany.
Maître Dupont-Moretti et Maître Weber ont dit que mon Patrick était tel qu'il est toujours, c'est-à-dire positif, droit dans ses bottes, et qu'il leur a simplement dit qu'il m'aimait et qu'il voulait qu'il me transmette ce message. Il a, Dieu merci, pu avoir ses médicaments, donc il a dormi.
Vous allez aller le voir ?
Oui, mais c'est pas simple. Il y a d'abord 2 tonnes de... On est en France, vous oubliez ? Hein ? Il y a 2 tonnes de papiers à unir, ce que nous avons déjà fait hier. Il faut que ce soit les avocats qui transmettent. C'est administrativement compliqué. Et ce matin, l'un des avocats de Patrick, Maître Vey, m'a dit avec beaucoup de précaution oratoire que ce ne serait pas lundi, parce que ça ne va pas aussi vite. Ce serait dans la semaine, on ne sait pas quand.
Voilà, donc ce que dit Isabelle Balkany, l'épouse de Patrick Balkany, qui espère donc que cela va aller assez vite pour la demande de remise en liberté. Je vous propose d'écouter, Dave, une autre réaction. Après, vous nous direz ce que vous en pensez. Cette réaction, c'est celle d'un ami de longue date, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Écoutez ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était à l'occasion d'une séance de signature de son livre Passion. Il rappelle que Patrick Balkany, c'est son ami.
Oui, c'est un ami d'enfance et je le connais depuis bien longtemps et donc ça me fait beaucoup de peine pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Et je pense à lui et je suis sûr qu'il aura la force de faire face à toutes ces épreuves. C'est un témoignage d'amitié parce que quand tout s'écroule, quand tout est contre vous, en général, le téléphone sonne moins souvent. C'est quelqu'un à qui je suis ami depuis longtemps et donc je lui dis mes sentiments sincères.
Voilà, Nicolas Sarkozy au micro de Romain Houg. J'en profite aussi pour vous dire que pour tout comprendre de cette affaire, il y aura une enquête exclusive spéciale Balkany diffusée dimanche soir sur M6 après Capital. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire et des réactions qu'on vient d'entendre, notamment celle de Nicolas Sarkozy?
Je suis d'accord qu'un ami reste un ami. J'ai vu un peu ça avec mon ami Gilbert Rozon, qui était le membre du jury des Incroyables Talents et qui a des problèmes qui ne sont pas encore finis, et qui reste mon ami jusqu'on me prouve que c'est un gros salaud, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on reste amis. Mmh. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère qu'il nous écoute. Ça, c'est une chose. Sinon, je pense, comme tout le monde, moi aussi, je suis contribuable. Je suis toujours pas de nationalité française. française, parce que quand je suis arrivé en 66, il était impossible d'avoir la double nationalité. Ça, on le doit aux travailleurs immigrés. Ouais. Mais je ne l'ai pas su pendant longtemps, et puis maintenant, c'est plus la peine. Je suis en effet néerlandais.
Mais vous payez vos impôts.
Et je paye mes impôts en France, évidemment.
Bien sûr. Donc,
je sais ce que c'est le sympathique qu'on peut avoir pour ceux qui se démerdent, comme on dit bon français. Mmh. Donc, ça, c'est une chose. Pour le reste, sans vraiment parler avec la langue de bois, je me méfie quand on n'a pas tous les données. A priori, je n'ai pas le dossier balkanique, on ne m'a pas remis ce matin. Donc, jugez pas, vous ne serez pas jugé, comme c'est écrit dans la Bible, dans les lettres de Paul, qui est Saint Paul pour les catholiques, mais je suis protestant.
Ouais. Deux infos encore venant de l'étranger. Tout d'abord, l'Italie qui semble desserrer sa pression sur les navires de migrants. Ce matin, l'Ocean Viking qui attendait pour débarquer 82 d'entre eux secourus en mer a pu, il a été autorisé à accoster sur l'île de Lampedusa. Ces migrants seront répartis dans 5 pays européens, dont la France. À noter évidemment que ça a changé en Italie, hein, et que ce feu vert intervient après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement Conte, dont est absent Matteo Salvini. Et puis une autre info, c'est que ce sont bien des rebelles yéménites qui ont attaqué la nuit dernière par drone des installations pétrolières en Arabie Saoudite, provoquant de gigantesques incendies. Ils l'ont revendiqué comme ils l'avaient fait lors des attaques précédentes de ces derniers mois. Ce qu'on fait, Dave, dans votre journal inattendu, c'est qu'on marque une petite pause de pub et on se retrouve dans un instant pour la suite du journal, avec tout d'abord Nantes, mais aussi votre reportage inattendu sur la disparition des abeilles. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Votre santé, bougez plus.
Le journal inattendu de Dave, avec Vincent Parisot sur RTL.
Alors Dave, je vous propose de prendre la direction de Nantes maintenant. Vous connaissez la ville quand même.
Oui, évidemment. Vous savez, les chanteurs, ça va partout. Hein.
Oui. Alors Nantes aujourd'hui, sous haute surveillance, le risque de débordement est pris très au sérieux parce que plusieurs groupes nationaux de gilets jaunes ont appelé à un rassemblement de rentrée dans une ville qui est encore secouée évidemment par l'affaire Steve Canisso. Une manifestation contre les violences policières doit d'ailleurs se joindre aux gilets jaunes, ce qui inquiète les autorités. L'ensemble du centre-ville, à l'exception d'une rue, je crois, est interdit aux manifestants. L'après-midi pourrait donc être tendu. Pour l'instant, Nicolas Bobby, c'est l'heure du pique-nique.
Oui, absolument. Un pique-nique très calme. Les manifestants arrivent ici sur la place Mélinée au compte-gouttes. Alors, petite anecdote, c'est l'une des places les plus chics de Nantes. Peu de manifestants portent des gilets jaunes. C'est d'ailleurs le cas de Jérôme qui va se rendre au départ tout à l'heure de la manifestation située en zone interdite.
Il n'est pas question d'établir des périmètres pour interdire de manifester aux gens. Je pense que la rue appartient à tout le monde. Ce n'est pas à moi de juger sur la question des black box. Bon, évidemment, il n'est pas question ici de faire l'apologie de la casse. En un mot, je viens me manifester pacifiquement.
La seule avenue autorisée, c'est le cours des 50 otages. Cette commerçante a décidé de rester ouverte.
Les revendications, ok, très bien, je ne suis pas contre. Mais casser et tout démolir et nous faire peur comme ça, non, ce n'est pas la peine. La violence, on n'en veut plus. Bah, ils passeront devant la porte, comme d'habitude, à nous faire peur, à nous injurier. Il n'y a pas de souci, hein, on les connaît. Hein.
Pour le moment, la police se montre particulièrement discrète. On a certes été survolé il y a quelques minutes par un hélicoptère de la gendarmerie nationale. L'après-midi, ici à Nantes, risque donc d'être chaude, au propre configuré. On attend plus de 30 degrés dans les rues de Nantes.
Eh bien voilà, ça sera chaud, comme un peu partout en France d'ailleurs, côté température. Merci Nicolas Bobby à Nantes pour RTL. Dave, vous, quel regard vous portez sur ce mouvement
C'est plus un regard que je porte sur ceux qui veulent gouverner ce pays, parce qu'ils sont quand même bien courageux. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement chauvin, honnêtement, mais je vais de temps en temps aux Pays-Bas et on ne peut pas ne pas voir la différence. Il y a plein de pays en Europe où des réformes qui me concernent, ne serait-ce que par exemple sur le mariage qu'on appelle libre, etc., se sont passés comme lettres à la poste. Et en France, ils étaient dans la rue, quoi. Mmh. Ils, je ne sais pas trop qui, mais je les ai croisés. J'habitais Place Vauban, ils étaient en bas de chez moi. Hein. Donc c'est extrêmement compliqué, ça j'ai bien compris, de réformer la France et d'enlever certains privilèges. Moi, j'adore être privilégié, donc je comprends très bien qu'on se bat pour être privilégié, mais il faut quand même une certaine lucidité et savoir l'urgence de certaines réformes.
Quant à la RATP, par exemple, on fait grève et on paralyse Paris une journée sur cette question des privilèges des retraites. Ouais, voilà, vous trouvez ça compréhensible?
Mais je ne vais pas tomber dans le piège de prendre les gens en otage, parce que le mot est toujours un peu fort. Il faut savoir comment on s'exprime. Hein. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais, et puis, pas, honnêtement, je n'ai pas pris le métro depuis que je suis connu.
C'est vrai,
non, c'est vrai. J'ai essayé une fois, et je voulais juste aller au cinéma, et on m'a suivi jusqu'au dans le cinéma pour savoir si je pouvais aller quelqu'un faire un disque. C'est compliqué.
Je sais que vous aimez le foot. Alors, on va en parler, parce que c'est la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale. Hier soir, Lille a battu Angers 2-1. Lyon a concédé le nul face à Amiens de partout. Cet après-midi, on va suivre avec attention l'ambiance dans les tribunes du Parc des Princes pour PSG Strasbourg à 17h30. Neymar devrait être titulaire, mais voilà, il va maintenant devoir faire oublier aux supporters les errements de l'intersaison. Je crois que dans les tribunes, on va lui faire savoir qu'il doit maintenant surtout montrer son talent. Vincent Serrano a rencontré quelques supporters à la boutique du PSG.
Les vrais supporters, ils en veulent plus parce qu'ils jouent pas avec envie. Il les humilie, quoi.
Neymar nous a humiliés. Par les ultras, je pense qu'il sera pas très bien accueilli, critiqué après ce qu'il a fait. On peut pas le laisser sans rien faire.
Je pense que les supporters vont être fâchés, qu'il y aura sûrement des banderoles.
Ils vont pas les laisser mettre leurs banderoles comme ils veulent. Mais après, bon, bah, s'ils nous montrent des beaux matchs en Champions League, pourquoi pas?
Après, voilà, il a été maladroit. Cette histoire de remontada, voilà, on a tous un bon souvenir dans le foot, hein. Qui se donne à fond, qui mouille le maillot et que si c'était un coup de com', qu'il ne l'en fasse plus à l'avenir.
Je suis un peu contre Neymar maintenant, mais voilà, vu qu'on l'a dans l'effectif, il faut faire avec et maintenant il faut l'intégrer parce que si on commence à critiquer nos propres joueurs, ça va pas aller et ça va pas permettre de gagner de grands titres. Il faut faire avec et la saison prochaine, s'il veut partir, la porte est ouverte.
Voilà, des supporters parisiens au micro RTL de Vincent Serrano. D'ailleurs, vous supportez le PSG ou pas, Dave?
Non, je
supportez les Pays-Bas.
Pas spécialement quand c'est France-Pays-Bas, c'est un peu compliqué.
Oui, j'imagine.
C'est plus pour le perdant.
Ouais. Alors, je précise, ce soir, 20h, Montpellier-Nice, Dijon-Nîmes, Bordeaux-Metz et Brest-Rennes à suivre dès 19h30 dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier. Et j'aimerais bien avoir votre avis quand même, Dave, sur le débat qui agite les dirigeants et même la ministre des Sports depuis quelques semaines sur la question de l'interruption des matchs lorsqu'il y a des chants, des slogans, des cris, des banderoles homophobes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que les gens ne se rendent vraiment pas bien compte à quel point c'est grave. C'est-à-dire que les jeunes qui se découvrent différents, ces mots-là peuvent être mortels, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je disais, oui, c'est moins grave quand même que les quantités de femmes battues, les femmes assassinées par la
Parce que copain. Certains disent que c'est du folklore.
Ah, non, c'est pas du folklore, c'est trop facile, quoi. C'est vrai que ça peut faire très, 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 très mal et ça prouve surtout la connerie humaine, mais bon, à 75 ans, on sait déjà qu'il y en a pas mal dans le monde. Hein.
Le reportage inattendu.
Oui, c'est celui que vous nous avez demandé, Dave, sur la disparition des abeilles, sujet qui passionne nos invités. On a ainsi déjà pu évoquer les causes, notamment pesticides, réchauffement climatique. Mais pour vous, on va s'arrêter sur une conséquence inattendue de cette diminution inquiétante du nombre des abeilles. Car aujourd'hui, il y a débat chez les apiculteurs entre abeilles avec ou sans sucre ajouté. Certains leur donnent du sucre pour qu'elles ne meurent pas de faim, continuent à produire leur miel, ce qui n'est pas évidemment du goût de tous. Reportage dans la Vienne et en Indre-et-Loire. Christian Panvert.
Philippe Rouen est apiculteur professionnel à Lavoux depuis 21 ans. Il a du mal à cacher son émotion lorsqu'il évoque la mortalité sans précédent de ses abeilles depuis quelques années.
L'année dernière, j'ai eu 139 ruches de mortes. 139 ruches sur 300, c'est beaucoup. Tous les apiculteurs en France avaient le même constat. On retrouvait quelques centaines d'abeilles avec la reine qui était morte. Alors qu'une ruche, c'est 45 à 65 000 ouvrières. Hein. Ça, il y a quelques centaines qui restaient. Les autres n'étaient pas rentrés à la ruche. Alors, on voyait beaucoup d'abeilles sur des carrelages, sur des bétons. C'est une catastrophe économique. En l'espace de 12 ou 13 ans, on est passé de 11 tonnes de miel à 3.
La faute, selon lui, aux pesticides, mais pas seulement, car il est sans doute l'un des derniers du département de la Vienne à militer pour une apiculture traditionnelle. Il laisse faire la nature, refuse d'alimenter les abeilles artificiellement, contrairement à la grande majorité de ses collègues qui leur donnent du sucre, une méthode qu'il dénonce.
La nouvelle apiculture qui se pratique aujourd'hui, elle fait de l'argent, mais c'est pas viable pour la nature. Apprendre des jeunes à mettre du sucre, à faire des essaims, des doubles des essaims, hors saison, pour les doper, c'est pas faire des gens honnêtes et responsables. Et puis c'est pas bon pour les abeilles. C'est-à-dire que la reine va dire « Oh, abondance de sucre, je ponds. Je passe de 1000 œufs à 3000 œufs par jour. » Sauf que, comme il y aura une carence de nourriture, ça va vite décliner aussi. Donc c'est juste de l'apparence, vous voyez. C'est juste de l'éphémère.
Alain Marché exerce à Vénier, en Indre-et-Loire. Il se définit comme un éleveur de l'insecte.
Pour moi, j'élève des abeilles, j'élève des animaux. Je n'ai pas le droit de les laisser mourir de faim.
Il vend aussi du matériel pour les apiculteurs et, à regret, dit-il, du sucre de canne bio pour les abeilles.
L'abeille crève de faim une grande partie de l'année. On les tient à perfusion à coup de nourriture. On ne veut pas sauver la nature, on est en train de faire du fric avec ce qui reste. Et on va maintenir les abeilles, on va élever des abeilles comme des cochons et des poulets, hein, comme dans beaucoup de pays où on surproduit du miel en Asie. C'est-à-dire qu'on va mettre des grands bidons, et bientôt, il y aura tout ce qu'il faut dedans, l'abeille n'aura même pas besoin de sortir.
Philippe Roy n'envisage pas un tel avenir, il veut au contraire qu'on recrée de la biodiversité.
Replantons des jachères mellifères avec des légumineuses, trèfle, luzerne, sainfoin, facélie, mélilo, des plantes qui donnent du nectar, qui donnent aussi des graines, et à la fois interdites de les faucher dans l'année, de les faucher qu'en fin d'année. Ça sera appétant pour les grands gibiers, pour le petit gibier, pour les oiseaux de passage et pour les abeilles. Et ça donnera aussi de l'oxygène à la terre. Et ces terres, au bout de quelques années, seront reposées, on pourra partir sur des bonnes bases.
Les deux apiculteurs sont finalement d'accord sur un point. Dave a raison de s'intéresser au sort des abeilles, car sans elles,
plus de pollinisation. Plus de reproduction de végétaux, plus de reproduction de végétaux, plus d'herbes, plus d'herbivores, plus de carnivores, plus d'arbres, plus d'oxygène.
Bref, un paysage qui serait pour le moins lunaire.
Merci à Christian Panvert pour ce reportage. Ouais. Dave, vous avez raison de vous inquiéter, disent les apiculteurs. Dans le Vaucluse, vous avez noté cette diminution importante chez vous.
Surtout cet été, c'était frappant parce que moi, je suis dans une région, donc en effet, je suis au milieu des garrigues, ouais. Des restanques, rien ne pousse. Et cet été, on n'a pas eu d'eau du tout. On dit toujours qu'il fait beau, qu'on est content. Mais nous, on attend la pluie. Mais vraiment comme Manon des Sources, quoi, ouais. Comme genre de fleurette, hein, vraiment. Et donc, ça fait très très peur. J'ai vu une nouvelle sorte de guêpe, je ne sais pas si c'est cette célèbre guêpe dont on parle, mais et qui tue les autres, quoi. Donc, et puis tout simplement, tout le monde le sait maintenant, quand on part en voiture, qu'il n'y a plus d'insectes sur le pare-brise, c'est quand même quelque chose de très angoissant, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'ai tout simplement angoissé, moins que j'ai angoissé pour les jeunes, parce que bon, moi, je crois que là, c'est 82 ans l'espérance de vie pour l'homme que je suis. Donc, ça va plus, il n'y en a plus pour longtemps.
Ouais. Non, bah, alors là, vous avez tout votre temps, on n'est pas pressé du tout. Tiens, par contre, le temps passe, là, très vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est marquer une pause, et puis dans un instant, découvrir avec vous cet album, votre 13e, Souviens-toi d'aimer. Dave est à la tête du journal Inattendu. À tout de suite.
Engagement 24 mois.
Le journal Inattendu de Dave, avec Vincent Parisot sur RTL.
Elle apprend tous les gestes, elle découvre les mots, les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau. Elle sourit, regardez-la, c'est la fille de papa, qu'on me dise.
La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer.
La fille aux deux papas, c'est le titre d'ouverture de cet album Souviens-toi d'aimer, texte signé de votre compagnon parolier Patrick Loiseau, au cœur de l'actualité, parce que c'est le débat sur la GPA. La fille aux deux papas, c'est votre petite filleule ?
Oui, absolument. C'est la fille de Marc-Louis Fogel qui lui a écrit un livre que je vous conseille vivement, qui se trouve encore chez tout le bon libraire, dans lequel il ne parle pas de lui. Il parle un peu de lui, mais pas surtout de plein d'autres cas. Et moi qui ne connaissais rien GPA non plus, et comme tous les cons, on lui a dit, mais pourquoi t'adoptes pas ? Parce que la réponse est simple, on ne donne pas un enfant à deux hommes ou deux femmes, donc ils n'ont pas le choix. Hein.
Le gouvernement assure, on a entendu récemment la garde des Sceaux, la GPA demeure un interdit absolu en France. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, justement. Alors, il y a cette chanson, hein, pour éventuellement.
Oui, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on dit et qui. Moi, je suis en plein d'espoir, je suis très optimiste. Pour le moment, je comprends cette attitude-là. Tout ce que c'est moi, c'est que les envies qui sont nées. J'en connais donc deux. Je vois une famille équilibrée et heureuse, avec des enfants heureuses, avec deux papas heureux. C'est extrêmement émouvant à voir. Je reçois tous les jours des photos et c'est une merveille. Donc moi, c'est une chanson d'amour. C'est pas une chanson de quelqu'un qui se bat pour le GPA. Je suis pas spécialiste du GPA. Je commence à m'y connaître un petit peu. Le dernier truc que j'ai reçu de deux pédopsychiatres, c'est que les enfants nés sous GPA dans le monde, parce qu'il y avait un peu de recul, sont beaucoup plus conscients qu'on croit. D'accord. D'où ils sortent.
Alors, après la première chanson, on va tout de suite à la dernière chanson de l'album. Je pense qu'elle est très importante pour vous. Elle s'appelle « Dernier regard ».
Que ce dernier regard a lors du départ battement de cœur d'une étrange lenteur
rien ne la retiendra, ni ma main qui réchauffe ses doigts, ni mon regard dans le sien qui s'éteint.
Alors ce dernier regard, c'est celui échangé avec votre mère à l'heure de son départ.
Oui, elle a été euthanasiée à un moment où on n'avait pas encore légiféré aux Pays-Bas, mais c'était déjà toléré.
Oui.
Et c'est vrai, évidemment, que c'était un moment inoubliable dans la vie de l'homme de perdre sa mère. En plus, le représentant de la justice à l'hôpital, le soir, paraît-il, était assez contre l'euthanasie, donc j'étais obligé de dire à maman, c'est pas ce soir, c'est demain. C'est comme un drôle chose à annoncer. Donc c'était un moment inoubliable dans ma vie. En plus, il va surtout ma mère qui dit au médecin qu'il y avait des larmes aux yeux, ce qui m'a touché, qu'elle a tapoté sur son le jour en disant « Allez-y, docteur ». Donc, elle était en grande lucidité, quoi. Ouais. Et mon compagnon, qui n'était pas là, parce que c'était vraiment que mes frères et ma sœur qui étaient là, mais il était à l'hôtel, quelques temps après, il a entendu pleurer, il m'a tendu les feuilles avec ces paroles-là. Ouais. Et j'ai entendu pleurer, et en lisant, j'ai compris pourquoi, quoi. Sur scène, évidemment, je ne peux pas pleurer. On ne peut pas pleurer et chanter à la fois. Ouais. Mais dans la salle, à la fin de cette chanson, les gens applaudissent pas tout de suite, et j'entends toujours renifler des gens. Je crois que tout le monde comprend, quoi.
Bien sûr.
Ça... C'est pas facile à passer en radio, mais merci de la faire.
Et évidemment, se pose aussi en France la question de l'euthanasie.
Absolument. Moi, j'étais assez sûr de moi, et puis un jour, je suis tombé sur un livre d'un professeur ex-cancérologue à la retraite, le docteur professeur Lévy, qui avait écrit un livre assez contre l'euthanasie. Donc, c'est pas si clair, c'est compliqué, c'est pas sûr qu'il faut légiférer. Je pense que, comme ça se passe déjà beaucoup, qu'il faut laisser. Vous savez, je veux très vite. Hein.
Ah oui, très vite, parce qu'on est très
en retard. J'avais un ami qui allait mourir de ça, et du sida, et le docteur a dit, je peux pas le faire, vous êtes là tous les jours. Venez pas demain. Je suis venu le jour d'après, et on m'a dit, viens de mourir, parce que j'étais pas là. Ils ont pu le faire. Ça va loin. Hein.
Ouais, ça va très très loin. Je disais qu'on est très en retard. Il est 13h01. On va rappeler l'actualité dans un instant. Recevoir votre invité, je le rappelle, qui sera là avec nous, Frédéric Gaillane. Ensuite, une belle surprise pour vous sur RTL. A tout de suite, c'est le journal inattendu de Dave.
Le journal inattendu sur RTL.
Oui, bonjour monsieur.
C'est bon.
Oui, vous êtes bien sur RTL.
Journal inattendu de Dave.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Actualité dominée par une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes à Nantes aujourd'hui. Gros dispositif policier, les autorités redoutent la présence de Black Bloc, d'autant qu'une manifestation contre les violences policières et en mémoire de Steve Canisso doit se joindre au rassemblement. Première nuit en prison pour Patrick Balkany après sa condamnation à 4 ans ferme pour fraude fiscale. Dès ce matin, il a reçu la visite de ses avocats. Il a aussi reçu le soutien de l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont il est l'ami. À Levallois, c'est son épouse Isabelle Balkany qui assure l'intérim. L'Italie assouplit sa position sur les migrants. L'Ocean Viking, avec à bord 82 personnes secourues en mer, a pu accoster à Lampedusa. Et puis le football, retour de la Ligue 1. Lille rassure en gagnant 2-1 hier soir face à Angers. Lyon piétine de partout contre Amiens. Cet après-midi, Neymar sera au Parc des Princes pour PSG Strasbourg. Les supporters qui n'ont pas digéré l'intersaison devraient lui faire savoir. Et puis alors, le meilleur pour la fin, c'est la météo. Et c'est avec vous, Dave, monsieur météo.
La météo pour cet après-midi, un temps de plein été avec du soleil et de la chaleur. Le ciel sera plus nuagé sur le massif central et le nord de la Nouvelle-Aquitaine avec un risque d'averse. Ils ont bien de la chance. Le température pour cet après-midi, 21 à 32 degrés avec 21 à Cherbourg, 25 à Brest, 27 à Paris et Biarritz, 28 à Nice, 30 à Bourges et Marseille, 32 à Bordeaux. Et 30 degrés cet après-midi dans le Vaucluse, où j'ai ma humble demeure, à Saumane-le-Vaucluse, cher Saumanet.
Voilà. Et toujours pas de pluie, vous qui attendez la pluie.
Ah oui, j'attends la pluie comme le pauvre Jean de Florette. C'est vrai que ça manque parce que j'ai pas l'eau de la ville, je suis sur source.
Ah oui, d'accord.
Chacun ça, sans problème.
C'est le journal inattendu de Dave.
Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue.
On ne s'en lasse pas. Et d'ailleurs, tout le monde chantait en régie, Dave. C'est vrai, vous n'êtes pas de ces artistes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas réentendre leurs anciens tubes qui ont plusieurs décennies.
Danser maintenant, qu'on n'a pas passé, donc je le cite parce que j'y tiens, Moonlight Serenade, c'était mon plus gros tube aux Pays-Bas. C'est mes enfants, quoi, en quelque sorte. Ouais. Donc, comment
vous en êtes fier.
Ah bah,
très fier. Très,
et mon très problème, heureux ça va être de mélanger la nouvelle avec les anciennes à Bobino le 18 novembre.
Ça, alors voilà, et ça c'est dit, ça c'est la promo, j'avais prévu de le faire plus tard, mais pas grave.
Il faut le faire plusieurs fois.
Le 18 novembre à Bobino, notamment pour présenter ce disque, Souviens-toi d'aimer. Si on le retourne, on vous voit de dos avec votre chien. D'ailleurs, je précise que sur la pochette de votre premier album, sorti en 75, vous étiez de face avec votre chien.
Ben oui, mais il y a un moment, il faut savoir se cacher un peu. Hein. C'est moins joli à voir maintenant.
Vous pourriez vivre sans chien ?
Ah, ça me fait penser à une phrase de Hélène Grimaud, mais c'est pas elle, paraît-il, qui l'a inventée. On peut vivre sans chien, mais ça vaut pas la peine. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai que comment avoir le cafard quand on a un chien qui saute sur le lit et qui dit on va sortir ? Non, on a tout de suite des bonnes humeurs, c'est une merveille.
Alors, et on embrasse et on caresse Clara.
Hein,
qui a remplacé Chance.
Voilà. Oui. Mais Clara aussi une fille des îles. Vient de la Guadeloupe.
Et donc vous avez décidé d'inviter Frédéric Gaillane, fondateur président de la première école d'éducation de chiens guides en Europe, exclusivement destinée aux enfants aveugles, malvoyants ou atteints d'autres handicaps. Avant de l'accueillir, pourquoi lui ? Racontez-nous
notre rencontre.
Oui.
Ouais, il est venu me voir. Moi, je suis vraiment complètement perdu au milieu de nulle part et je suis très disponible.
Près de l'île sur la Sorgue.
Oui, en haut de l'île sur la Sorgue. Je suis très disponible pour les gens, partout, sauf là. Parce que si je suis aussi isolé, je veux avoir la paix. Ouais. Donc généralement, quand quelqu'un arrive, je envoie Patrick Loiseau qui dit non, il n'est pas là, etc. Là, c'est quelqu'un non-voyant qui arrive avec une femme qui l'a guidé. Et évidemment, là, on est différent. Et je peux vous dire, il va parler lui. C'est un immense vendeur. Quand je l'ai connu, il m'a montré un terrain vague sur lequel il n'y avait rien. Et aujourd'hui, vous pouvez voir ce qu'il y a, et il va nous le dire.
Eh bien, il va nous le dire. Bonjour Frédéric Gaillane.
Bonjour.
Comment vous en êtes venu à créer cette école, ce centre destiné aux enfants aveugles et malvoyants ? Vous êtes vous-même dans cette situation.
Oui, donc je suis non-voyant et j'ai un chien guide. Mais juste avant, je tiens à remercier Dave, et puis je lui ai demandé un jour d'être le parrain, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un jeune artiste prometteur, et j'espère qu'il va soutenir notre...
Je t'emmerde.
Notre fond de...
Notre non, fond mais qu'est-ce que c'est?
Il va soutenir notre fondation.
Il est bien non-voyant, ce garçon. Hein. Je suis désolé de te décevoir, je suis noir.
Il va nous soutenir encore pendant de nombreuses décennies. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une histoire d'amour en commun. C'est le village de Saumande, parce que c'est là où j'ai perdu la vue dans un accident de voiture. Et Dave le dit si bien parfois, c'est que lui, il a retrouvé la lumière dans ce village. Voilà, alors cette école, effectivement, c'est une école qui est toute récente, puisqu'elle a une dizaine d'années. Pourquoi il n'y avait pas d'école de chien guide pour les enfants aveugles ? Parce que les écoles à l'époque n'offraient pas de chien en dessous de 18 ans. Et lorsque j'ai appris cette situation, je trouvais que c'était injuste parce que des enfants ne puissent pas bénéficier d'un chien guide, je trouvais que c'était la double injustice. D'une part, il y a cet handicap qui est lourd et d'autre part, on ne leur proposait pas d'avoir un chien guide. Le choix entre le chien guide ou la canne blanche.
Alors, vous éduquez les chiens, vous remettez gratuitement ces chiens guides à ces enfants. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez recréé un espace urbain pour leur apprendre à traverser sur des passages piétons, à respecter les feux, c'est ça ?
Oui, quand j'imaginais cette école, elle se situe en trois départements. Il y a le centre cynotechnique, ce parcours des sens, où on recrée l'environnement urbain, et puis également l'hébergement des enfants lorsqu'ils viennent en stage. L'environnement urbain, c'est un travail intéressant parce que c'est une... Comment dire ? On utilise ce qu'on appelle les sens compensatoires, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le sens thermique, le sens analytique et le sens de l'orientation. Et je me suis dit, c'est la nature qui nous a donné tous ces sens-là. Et on essaie de travailler avec les enfants lorsqu'ils viennent sur site, dans un milieu sécurisé. On leur apprend à utiliser ces sens pour qu'ils puissent se déplacer dans l'environnement urbain réel, en situation réelle, en ayant acquis ces éléments-là, c'est-à-dire de se dire, ben, je vais beaucoup plus utiliser mon ouïe pour analyser faisais la traversée d'un carrefour à l'aide de mon chien guide.
Oui. Donc vous éduquez les chiens et donc également les enfants. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'existait pas. Auparavant, les enfants ne bénéficiaient pas de chiens guides.
En France et en Europe, ça n'existait pas avant 2008, puisque notre école, la pose de la première pierre où était Dev présent, eh bien, ça a été le démarrage de cette école-là, et nous offrons des chiens depuis 2007 à des enfants aveugles et malvoyants.
Alors, quel est le rôle quel est le rôle de Dev? Alors, il a posé la première pierre.
Avec Frédéric, mais c'est surtout aussi pour en faire parler. J'ai fait des concerts pour essayer de faire. Lui, il sait faire des sous. Il est fort pour ça. Oui.
Alors, dites-nous, parce que c'est très important, Frédéric Gaillane, si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, bon, on est une fondation reconnue d'utilité publique, membre de la Fédération française de chiens guides et reconnue sur le plan international par la Fédération internationale de chiens guides. Et comment on peut nous aider? On ne vit que de dons, comme beaucoup d'autres structures comme la nôtre, mais également il peut y avoir des legs, il peut y avoir des animations, comme dit Dev, des concerts organisés à notre profit pour qu'on puisse offrir des chiens à des enfants.
Ça coûte
25 000 euros.
Vous vous rendez compte?
Mais bon, c'est sur 8 ans, le chien se déplace auprès de l'enfant durant une huitaine d'années. Si tout se passe bien, bon, c'est très compliqué parce qu'on travaille avec des êtres vivants, que ce soit le chien ou l'enfant. Mais voilà, donc ce qui est très important de savoir, c'est que le chien apporte beaucoup d'autonomie, de liberté et favorise l'épanouissement de l'enfant.
Alors, on est impressionné effectivement par le coût, 25 000 euros pour former ce chien, d'où la nécessité de vous aider. Fondation Frédéric Gaillane, vous trouvez ça évidemment sur internet. Merci beaucoup Frédéric Gaillane, bravo pour ce que vous faites.
Merci à vous.
Je rappelle, n'hésitez pas, Fondation Frédéric Gaillane, merci d'être venu nous expliquer ce que vous faites pour ces enfants malvoyants et pour leur offrir ces chiens guides. C'est vraiment formidable. Avant de marquer une pause et de vous faire une belle surprise, Dev, on va vous écouter. Tiens, alors ça, j'ai été étonné. Ça, c'est inattendu. Une reprise d'un grand classique. Je crois que vous avez enregistré ça il y a une dizaine d'années.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Sweet Dreams, le tube des Aerosmith.
Ouais, c'était pas Arte, oui, j'ai adoré faire ça. Ouais. Moi, je dis toujours quand on me pose quelque chose, combien, mais quand j'aime vraiment, je ne me demande pas du tout combien, je le fais. Parce qu'Arte, il n'y a pas un grand budget, mais c'était trop intéressant à faire. Et c'était très, très bon. Bravo pour l'avoir trouvé, déjà, pour faire.
Et très réussi.
Merci.
Très réussi. Sweet Dreams par Dave sur RTL. Ça, c'était une surprise, mais j'en ai une autre dans un instant. Ah oui, et je pense que vous allez être étonnés. À tout de suite.
Dave est l'invité du journal inattendu sur RTL avec Carrefour.
En plus, c'est bon.
12h30, 13h30 sur RTL.
Le journal inattendu avec Dev et Vincent Parisot.
Oui, inattendu, avec une surprise, peut-être grosse surprise pour vous, je ne sais pas. Dev, on a quelqu'un au téléphone en ligne avec nous. Je propose que peut-être vous lui disiez bonjour tout de suite et entamer la conversation.
C'est moi qui dis bonjour
aussi. Bah oui, peut-être.
Allez, bonjour, comment allez-vous?
Alors, est-ce que notre invité est en ligne avec nous? Ah, alors visiblement, on a un petit souci de
communication,
de liaison. Alors, que je vous propose?
Dites-moi.
Allô? Est-ce que vous êtes en ligne? Non, visiblement, on a un problème de liaison. Alors, on écoute une chanson. Une chanson qui est dans cet album, pas n'importe laquelle. Parce que cet album, il est produit par Renaud. Ah. Et il vous a écrit une chanson, Renaud.
Il me l'a donnée, en tout cas, oui.
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Peu importe qu'on pleure sur les années passées, les larmes ne sont plus qu'un torrent d'eau salée, une source inutile où l'on va se noyer. Ça souffre
ça souffre doucement. Toute une éternité.
Alors, une femme qui s'en va, hein, c'est cette chanson de Renaud, c'est le 10e titre. Alors, on va jouer en toute transparence. La surprise, c'était lui. Enfin, c'est lui, hein, Renaud.
Oh oui, ça aurait été une vraie surprise.
Bah oui, et qu'on doit avoir en ligne. Alors, visiblement, il y a un petit souci de dernière minute. Ouais. Mais quand même, racontez-nous. C'est vrai qu'il est allé vous voir un jour en spectacle, ouais, et qu'il vous a dit...
J'étais un clown musical.
Un clown musical.
Ouais, il m'a dit ça, oui. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Juste clown, je n'aurais peut-être pas aimé, mais clown, ouais, musical, ça me va, parce que je trouve que c'est très important que les gens sourient, au moins. Je ne suis pas un stand-up. Mais ce qui se passe entre les chansons, les mots clés dans le spectacle, il y en a deux, c'est le mot donner et le mot surprendre. Ouais. Et Dave qui chante Fanina, ils sont peut-être très contents, mais c'est pas très surprenant, ouais, non plus. Donc.
Mais ce qui est surprenant, c'est Renaud qui produit Dave.
Ah oui, ça je dois dire, c'est vraiment la surprise du chef, parce que il n'y a pas d'autres exemples. On a quand même deux familles musicales très différentes.
Bah oui.
Et lui, c'est le René Char du 21e siècle. C'est, ouais, l'île sur la Sorgue et la ville de René Char, c'est devenu la ville de Renaud. Immense poète, franchement. Mmh. Et donc, il a entendu quelques chansons, il a dit je vais écouter tout, et puis il a dit je produis, donc c'est tombé des nues, c'est formidable.
Parce que vous êtes voisin depuis de nombreuses années.
Oui, il est à l'île sur la Sorgue depuis une trentaine d'années, où il y avait un oncle qui lui a laissé une maison, qui a rangé, et donc il est là depuis toujours. Moi, je suis là depuis bientôt 24 ans. Mais on se disait bonjour sans plus. Puis un jour, la femme de Thierry Geoffroy, qui est le réalisateur, et qui a aussi l'école, ouais, de l'album de Renaud qui va bientôt sortir, il est là, vous l'avez ?
Eh ben oui. Ah. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez que vous faites vraiment plaisir à Dave.
Ah ben oui, parce que moi, Renaud, partout où je vais, je parle de ton album qui va sortir au mois de novembre. Que j'ai eu du bonheur d'entendre, parce qu'il a fait un album formidable.
Ouais. Alors, on va en parler, mais Renaud, racontez-nous comment c'est arrivé cette relation avec Dave et le fait que vous produisiez cet album.
Bah, après moult soirées guitare et chansons avec des amis, dont Dave et son copain, j'ai écouté ses nouvelles chansons, ouais, les premières maquettes, où j'ai décidé de le produire parce que c'est un ami. Ouais. Et c'est tout.
Ouais. On disait que c'est assez étonnant, si on nous avait dit ça dans votre ou dans notre jeunesse, hein, parce qu'on n'y aurait pas cru. Le public s'est fait une fausse idée de Dave.
Peut-être. Et puis surtout c'est déroutant parce que le public s'est peut-être fait une fausse idée de moi aussi.
Ouais. C'est-à-dire.
Exactement.
Je suis capable d'investir dans un autre artiste que moi et dans un autre style, un autre genre et un autre répertoire. Mais moi, j'aime beaucoup cet album et ces chansons.
Renaud, après un début d'année très éprouvant, Dave nous donne des nouvelles rassurantes de vous.
Oui.
J'ai envie de vous poser la question tout naturellement, d'ailleurs. Comment ça va ?
Ça va très bien. Malgré ce qu'on dit, la presse people, la presse de caniveau, je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose du foie, ni Parkinson, comme il vient d'annoncer hier récemment encore. Je suis en parfaite santé depuis un an. Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 9 mois. Et je suis parfaitement lucide et heureux.
Et fier, j'imagine. Et c'est le San Pellegrino Bitter qui a remplacé d'autres boissons.
Oui. Absolument, je vois ça. C'est un apéritif sans alcool. Et c'est bon.
Et j'imagine, alors Dave nous a parlé de votre prochain album. Vous ne voulez peut-être pas trop vous étendre dessus, mais est-ce qu'il y a chez vous cette envie, ce besoin de retrouver votre public ?
C'est jamais perdu, d'abord. Et ensuite, c'est un album un peu différent dans la mesure où c'est un album sur l'enfance, et je parle à la place des enfants, et j'espère qu'ils verront ça, ainsi que les parents, parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands, dont les enfants peuvent aimer.
C'est vrai que, Renaud, tu me permets de te dire que quand je te vois avec des enfants, j'ai l'impression que le ciel orageux, il y a le soleil qui arrive, quoi. C'est vraiment... Il y a deux choses qui lui donnent une banane incroyable, c'est que des enfants qui l'abordent, il est toujours disponible pour les enfants. Et c'est vrai que c'est dans l'album que j'ai entendu, c'est coquin, par sa part aussi, c'est très surprenant et extrêmement bien chanté, sans tricherie aucun, quoi. C'est formidable.
J'espère.
Bon, en tout cas, Dave voilà, est plein de compliments à votre égard. Non, et puis surtout...
je croyais vraiment à plein de gens avec lesquels on va me surprendre, mais je ne pensais pas que Renaud allait parler. Ça, ouais. Je te remercie, Renaud.
Et puis, c'est une surprise.
Oui, c'est une très bonne surprise. Très bonne. Et puis surtout, la meilleure nouvelle, c'est ce qu'on a entendu de votre bouche, c'est que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux.
Oui, absolument.
Et qu'on va vite vous retrouver. On a hâte.
Fin novembre.
Fin novembre, cet album. Il est tout prêt, ouais. Il est enregistré, il est mixé.
La pochette. Plusieurs fois, de suite, dans la voix la plus limpide, la plus claire. Moi qui est un peu rocailleuse parfois.
Tu crois?
Surtout dans les interviews.
il est très lucide.
Oui, c'est formidable. Mais on vous entend très bien. Il a un titre cet album ou pas encore, Renaud?
Il a un titre, ça s'appelle « Les mômes et les enfants d'abord ».
C'est beau, hein?
Ouais, c'est très beau.
Les mômes et les enfants d'abord.
Les mômes et les enfants d'abord. Merci beaucoup. Ça, c'était une bonne surprise.
Merci Renaud, à très vite.
Merci Renaud.
Je t'embrasse.
Moi aussi. Bye.
Ça, c'était très, très sympa.
Ah, merci. Hein. Vraiment, ça fait ma journée. Déjà, passer sur le grand journal et entendu les RTL. La journée avait bien commencé, mais en plus avec Renaud, je vous remercie.
Et attendez, c'est pas tout à fait fini.
Ah bon, mais très bien. Restez là, chers auditeurs. Allez, pas ailleurs, surtout.
Qui a dit revenir, économisons-la.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Dave et Vincent Parisot.
Alors si tu veux de mon avis, ne perdons pas un seul instant pour devancer l'ennui. Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits, sans désir, sans élan, et tout ce qui s'ensuit. Quittons-nous, bons amants.
Quittons-nous, Bozaman. C'est le deuxième morceau de cet album, Souviens-toi d'aimer, produit par Renaud, qui nous a fait l'immense plaisir d'intervenir au téléphone il y a un instant. On est encore tout ému.
Ah ouais, franchement.
C'est votre chanson préférée de l'album?
C'est-à-dire que depuis que Patrick Bajot a bien voulu changer la fin, parce que ça finissait sur Quittons-nous, Bozaman, ce que je trouve très triste, donc je vais ajouter dans un an, dans 10 ans, pour gagner un peu de temps.
Voilà, c'est ça, effectivement. Et vous avez le temps.
Merci.
Marina Carrère-Dancos était à votre place. Vous la connaissez, Marina Carrère-Dancos. Elle est à votre place samedi dernier. Elle a une question pour vous.
Bonjour Dave, c'est Marina Carrère-Dancos. Vous étiez venue chez nous il y a quelques temps pour parler de votre accident de santé. Je voulais savoir d'abord surtout comment vous alliez et puis surtout si vous vivez autrement aujourd'hui depuis cet accident.
Ah ben voilà, ça c'est dit. Alors, accident cardiaque, on va pas chanter Mon cœur est malade.
Non, j'ai dit, avant de le chanter, je parle toujours de ça, évidemment. Non, c'était en effet un pontage, et c'est vrai qu'il y a une grande solidarité entre pontés. Nous aimons tous, nous montrons nos cicatrices les uns aux autres. Ouais. Et c'est vrai que ma cardiologue, qui est la sœur de Marc-Louis Fogel, Marianne Fogel, m'a dit que j'avais perdu un peu de ma légèreté, possible. Ouais. Mais vous savez, les années SIDA m'ont fait perdre pas mal de ma légèreté aussi, parce qu'il y a une chanson sur l'album,
c'est pas elle est très belle. Quel arc-en-ciel.
Et donc, je connais la mort et je suis tout à fait d'accord pour mourir, mais quand l'avion bouge, je me fais pipi dessus, donc je suis pas si d'accord que ça.
Mais c'est pour ça que votre humour nous est cher, votre rire nous est cher, votre regard sur vous-même également. Merci Dave. C'était un grand plaisir. L'album Souviens-toi d'aimer est sorti hier. Merci à vous, évidemment à Renaud, qui nous a fait la très belle surprise de vous passer un petit coup de fil. La semaine prochaine, ce sera Géraldine Nakache à votre place. Merci beaucoup.
Mais quittons-nous, bons amants.
Le journal inattendu de Dave avec Vincent Parisot sur RTL.